Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Comme va la famille, ainsi va la nation et ainsi va le monde entier dans lequel nous vivons, disait le pape Jean-Paul II, aujourd'hui Saint Jean-Paul II. À l'entendre donc, la France irait mal, très mal même, avec un couple sur trois qui divorce et même un sur deux dans les grandes agglomérations. La banalisation du divorce est un sujet de grande souffrance pour nombre de chrétiens, mais que faire quand le drame arrive, sinon accompagner au plus juste, aider à guérir, à se relever, c'est le chemin que je vous propose d'emprunter ce matin. Vite couple, vite famille, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, l'un de nos rendez-vous avec autour du plateau honneur aux dames Marie-Aude Binet, conseillère conjugale et familiale et sexologue et chroniqueuse à Radio Présence. Bonjour.
Bonjour.
Et Sébastien Dex, sociologue et psychopraticien. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, je le dis aussi pour vous faire un petit peu de pub. Marie-Aude, vous exercez à Toulouse, c'est ça? Et Sébastien Dex à Toulouse et à Pamiers.
Pamiers.
Un pied en Ariège. Donc aujourd'hui, on va parler du divorce. Alors je me suis permis, confidence de journaliste. Aujourd'hui, on a presque des scrupules à écrire des introductions comme ça. Et je me suis dit que voilà, il pouvait être important de redonner la parole quand même à des grands, en tout cas des grands pour les chrétiens, comme Jean-Paul II, pour remettre un peu la balle au centre, même s'il ne s'agit pas de juger qui que ce soit pour ceux qui seraient concernés en écoutant cette émission. Alors, beaucoup de choses à dire sur le divorce. Peut-être la première chose que j'aurais envie de vous poser, première question, c'est est-ce que dans vos cabinets, la question du divorce est une question aujourd'hui omniprésente ou marginale? On va commencer avec vous, Sébastien Dex.
Alors, je dirais peut-être ni l'un ni l'autre, ni omniprésente ni marginale, mais très fréquemment présente, oui. Que ce soit les personnes qui sont directement concernées, c'est-à-dire le couple qui est en instance ou qui pense ou qui gère les conséquences de leur divorce, soit les enfants aussi. Moi, c'est plus particulièrement quelque chose sur lequel je suis sensible. Soit aussi, par exemple, les grands-parents. Ou les beaux-pères, les belles-mères, toute la famille.
Ils viennent vous voir pour savoir un peu comment se positionner,
comment se positionner, le vivre. Oui, et faire face aux difficultés occasionnées par la séparation du divorce.
Marie-Aude Binet, même question.
Alors, je vais pouvoir vous répondre très concrètement, puisque la semaine prochaine, j'interviens lors d'un congrès de sexologie et j'ai fait une enquête sur 2018 sur les situations conjugales que j'ai accompagnées. Et pour vous donner un chiffre, comme ça en donnera un concret, sur l'ensemble, sur 121 situations conjugales que j'ai accompagnées, il y a eu 28% de séparation, 35% de couples qui ont continué et 34% de couples que je continue d'accompagner. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité de couples qui restent ensemble, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une proportion plus importante que celle que vous citez de gens qui arrivent chez vous en disant on n'en peut plus, on a envie de se séparer
ou... Oui, exactement. C'est-à-dire que le premier mouvement peut être on est épuisé, on en a assez. L'un des deux qui peut dire j'ai envie de partir, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Et donc c'est toujours un petit peu ce delta entre ce qui est ressenti et ensuite la réalité de ce qui va se passer. Et les couples, la plupart du temps, qui vont jusqu'au bout de la séparation, sont des couples qui arrivent soit très tardivement dans leur demande d'accompagnement, et il y en a un des deux qui en fait a déjà pris sa décision, soit parce qu'il y a une situation particulière au couple qui fait qu'en effet ça devient très compliqué de dépasser la crise qui existe. Voilà. Donc, après, il y a aussi énormément de couples qui ne font pas de démarche d'accompagnement, ce qui explique aussi qu'il y ait une telle proportion de séparation.
Alors, on va donner quelques chiffres. J'ai les chiffres pour l'année 2016. Je ne sais pas si vous l'avez pour l'année 2017-2018. 128 000 divorces en France. J'ai vu que la France était, dans la moyenne européenne, que les écarts se réduisaient entre les différents pays de l'Europe, même si il y en a certains qui continuent à faire exception, comme l'Irlande ou Malte. Pour 1000 habitants, des taux à 0,6 pour l'Irlande et Malte 0,9, quand on est pour le Danemark à 2,9. L'Estonie 2,6, 2,5 pour la Finlande. Donc les pays de l'Est ne sont pas du tout épargnés par les divorces. Que dire d'autre pour les chiffres? J'ai vu aussi qu'il y avait une légère baisse depuis 5 ans, depuis les années 2010. Il me semble qu'on en avait parlé dans l'émission sur la question des séparations. Vous disiez qu'on avait comme atteint un pic et qu'aujourd'hui, il y a une forme de stabilisation quand même de ces chiffres, Sébastien Dex.
Oui, tout à fait. Les chiffres montrent tout à fait ce moment un peu que la courbe arrête de progresser, voire même commence un petit peu à diminuer. On va dire que sur les 4-5 dernières années, on est à environ à 130 000 divorces par an, à peu près. Dans ce que vous dites, 128 000 pour 2017, c'est ça, ou 2016.
128 000 pour 2016.
Montre déjà un léger déclin. Il y a eu vraiment l'explosion à partir des années 71-72. On n'était qu'à 44 000 divorces. Donc, vous voyez, presque multiplié par, oui, au moins par 3 en 40 ans. Et là, quelque part, on arrive, peut-être heureusement, j'ose le dire comme ça.
Comment on explique ce ralentissement ? Est-ce que les praticiens que vous êtes ont quelques explications ou
c'est assez mystérieux encore, moi, je pense. Après, moi, je crois que par rapport à ce que vient de dire Marie-Aude, il y a quand même une ressource un peu plus grande sur l'accompagnement des couples. Je crois quand même que ça, c'est quelque chose qui joue en faveur, parce que y a quand même, c'est peut-être pas une prévention, mais que ça évite quand même quelques divorces. Y a une aide qui est repérée quand même de plus en plus en tant que couple.
Marie-Aude, c'est pas sur cet heureux ralentissement ?
Oui, mais je pense qu'en effet, les couples osent davantage demander de l'aide. Et même aller voir d'un point de vue spirituel des prêtres, des religieux pour avoir cet accompagnement-là, donc pas que des psychologues ou des thérapeutes de couple. Et ensuite, il y a aussi un côté financier, c'est qu'un divorce, ça coûte très très cher et qu'aujourd'hui, il y a des couples qui n'ont pas les moyens de divorcer. Donc il faut bien trouver une autre solution pour continuer à vivre ensemble et c'est quand même... un encouragement à se reposer les questions un peu plus en profondeur. Donc ça ne crée pas une situation forcément très confortable. En tout cas, c'est une des raisons aussi.
Alors, parmi les chiffres, on pourrait citer, pour essayer de cerner un peu la réalité, hein, la plupart du temps, ce sont les femmes donc, qui demandent le divorce. Voilà, on divorce autour de 42 ans pour les hommes, 44 ans pour les femmes. Et dans la plupart des cas, donc 70%, près de 70% des femmes qui divorcent exercent une activité professionnelle. 80% des cas, ce sont les femmes qui obtiennent la garde des enfants. Et dans 2/3 des cas, la résidence du ménage est attribuée à la femme. Je ne sais pas, vous avez un commentaire sur ces chiffres. On peut avoir l'impression que la femme a la part belle dans les divorces. C'est délicat d'en faire un sujet de conversation, mais...
Oui, la part belle est à relativiser. Mais en tout cas, ces chiffres... démontre quelque part une évolution de la place des femmes dans la société. Ça déjà, ça peut dire quelque chose. C'est que quand même, auparavant, ce sont les hommes qui décidaient de divorcer. Et depuis que notamment les femmes quand même développent, et notamment en France, un taux d'activité professionnelle très important, elles ont entre guillemets plus les moyens, elles sont moins dépendantes aussi financièrement de leur mari, donc elles peuvent prendre la décision de divorcer beaucoup plus. Après la part belle, moi la garde des enfants, où on est encore à plus de 80% de la garde des enfants qui est donnée entre guillemets aux femmes. Moi en tant que notamment que père, mais en tant que praticien aussi, ça me pose question sur que deviennent les pères, les papas dans l'histoire du divorce.
Marie, vous avez un commentaire sur ces chiffres avant qu'on fasse un peu d'histoire ?
En fait, les femmes aussi, non seulement les moyens financiers, mais elles osent davantage s'affirmer. C'est-à-dire qu'elles ont moins peur, entre guillemets, d'être les méchantes qui demandent le divorce. Elles ont beaucoup de culpabilité et quand même beaucoup moins qu'avant par rapport à leurs propres enfants. Et il faut savoir qu'une femme ne demande jamais le divorce sur un coup de tête. Elle a souvent mis des warnings pendant très longtemps. Et c'est parce qu'au bout d'un moment, elle ne se sent plus du tout écoutée, qu'elle se dit « mais il entend rien, c'est pas possible », qu'elle finit par le faire. Et une fois qu'une femme a décidé de partir, c'est très difficile de la rattraper. Contrairement aux hommes, qui eux ne peuvent pas dire grand-chose, vont peut-être être infidèles ou être plus dans leur travail, etc., mais sont beaucoup plus rattrapables. Donc il y a une différence aussi comportementale des hommes et des femmes dans le divorce.
Voilà. Il y a un côté radical dans le divorce des femmes.
Dans le choix, en tout cas.
Oui, dans le choix, tout à fait. Oui.
On va faire un petit peu d'histoire. Même si on va pas y passer peut-être 20 minutes, mais c'est intéressant de voir. Enfin, je sais pas si le mot est très 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 à propos, mais en tout cas, le divorce est une réalité qui ne date pas d'hier, mais qui a évolué au long de l'histoire. Déjà, la première chose à dire, c'est que dans l'Antiquité, chez les Grecs comme chez les Romains, le divorce existait déjà. Alors, je me tourne vers vous. Ça n'empêche pas Marie-Aude d'intervenir, puisque vous êtes sociologue. Sébastien Dax, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet âge antique ?
Alors, je ne l'ai pas connu, je tiens à le préciser, mais la première, effectivement, le divorce existait déjà dans les mœurs romaines, grecques de l'Antiquité. Ça, c'est clair. Mais, j'allais dire, la raison principale du divorce à l'époque, c'était le problème de la filiation. C'est-à-dire que c'était l'homme qui décidait de divorcer d'une femme parce que, notamment, la femme était accusée de ne pas pouvoir lui donner d'enfant et donc de pouvoir assurer sa ligne, son patrimoine, son héritage quelque part. Alors que il faut réfléchir aussi à ça quand même. À l'époque, on savait pas d'où venait l'infertilité. Mais de toute manière, vu que le père, c'était la puissance paternelle, on pouvait pas soupçonner que c'était l'homme qui était infertile. Donc, c'était la femme qui était coupable d'infertilité et on pouvait se séparer parce qu'elle donnait pas de progéniture à son mari, par exemple.
Est-ce qu'on peut dire la même chose sur le Moyen-Âge ? J'ai lu donc que le divorce était assez banalisé au Moyen-Âge, contrairement peut-être à l'idée qu'on peut s'en faire. Et que l'Église, donc, alors, suite au Concile de Trente, a interdit donc, le divorce. C'était donc en 1563. C'est pareil, le divorce au Moyen-Âge était on va dire, une pratique qui servait en partie l'intérêt des hommes. Et c'est là l'explication de l'importance des divorces.
Oui, alors le Moyen-Âge, bon, je ne suis pas historien, hein, mais il faut quand même, je pense, le Moyen-Âge est une telle ampleur de temps, il fait plus de 1000 ans.
5e, 15e siècle.
C'est ça, 1000 ans, c'est ça. Il faut au moins séparer deux Moyen-Âge. Il y a le bas Moyen-Âge où on peut dire que le divorce continue à fonctionner un petit peu sous le mode romain et grec. Mais après, il y a vraiment le divorce qui est interdit, notamment par la montée et par la domination de l'Église catholique qui est vraiment contre et qui prône l'indissolubilité du mariage.
Mario, vous avez un commentaire sur cette période de l'histoire ou est-ce qu'on passe aux Lumières ?
Alors, on peut aller très vite là-dessus, mais simplement rappeler que le mariage n'a été institué par l'Église qu'au XIIe siècle. Donc ça a été très tardif aussi. Du coup, il faut encore un peu de temps pour mettre en place cette interdiction du divorce. Et il y a une forme aussi de protection sociale de l'enfant, de la mère et de la famille.
Donc qui va avec cette interdiction
Exactement.
Du divorce. Ensuite, les grandes étapes, si on doit les citer, donc il y a évidemment la Révolution française qui a travaillé donc à une forme de désacralisation du mariage et donc a institué l'institution du mariage civil et du divorce donc en 1791 et 1792. La Troisième République continue à, on va dire, à enfoncer le clou. Il s'agit donc de divorce sanction pour adultère, injure, sévice, abandon du foyer conjugal, etc. Et puis en fait, après, on assiste à une forme de libéralisation. Il me semble que là, c'est vraiment historique. Hein, sous Giscard d'Estaing, en 1975, une première loi qui permet de dédramatiser d'une certaine manière le divorce et donc d'établir le divorce par consentement mutuel. Ensuite, il y a une loi de 2002 pour partage des gardes et la fameuse loi de 2017 où maintenant le divorce se fait par consentement mutuel mais sans passer devant le juge. Alors, c'est pareil, vous n'êtes pas historien l'un et l'autre, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une longue libéralisation ? Je vois Mariotte qui lève le doigt comme à l'école.
Ouais.
Allez-y Mariotte, nous vous écoutons, vous n'êtes pas d'accord.
Si, il y a une libéralisation et quelque part, le fait de dédramatiser le divorce, c'est quand même important. Ouais. Parce que lorsque les divorces se passent extrêmement mal, les dégâts psychologiques sur les conjoints et sur les enfants sont quand même très importants. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le banaliser.
Dédramatiser et libéraliser, ça peut être deux choses différentes.
Exactement. Par contre, je veux revenir sur cette loi de 2017 qui a permis donc de favoriser le consentement mutuel sans passer devant le juge. C'est d'abord que pour les personnes qui sont mariées. Quand des personnes ne sont pas mariées, mais étaient en cohabitation, en tout cas en union libre, elles sont obligées de passer devant un juge. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Ensuite, pour qu'il y ait ce divorce par consentement mutuel, ça demande que chacun des conjoints ait son propre avocat. Donc ça veut dire qu'en amont, ils ont discuté tous les deux de ce divorce, qu'ils sont d'accord et les avocats, avec le notaire, ne font que valider. Donc ça veut dire que ça favorise en fait un dialogue et une communication entre les conjoints avant la séparation. Sinon, le divorce reste conflictuel et à ce moment-là, ils sont obligés de passer devant un juge. Donc le juge reste toujours présent en cas de difficulté et notamment lorsqu'il y a des couples où les conjoints sont de deux nationalités différentes. Le juge reste prioritaire dans la procédure.
Avant qu'on fasse une première pause, est-ce que vous pouvez nous dire, je vous avais déjà posé la question, hein, quand on avait fait une émission sur les séparations, vous aviez, là c'était, on essayait de voir comment gérer au mieux au moment de la séparation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand je dis ou je laisse entendre dans l'introduction que le drame est toujours un divorce, le divorce est toujours un drame, même s'il ne s'agit pas de juger les personnes ou les situations. Marie-Aude, vous êtes d'accord ?
Oui, et c'est pour ça que de plus en plus, en tant que thérapeute, nous accompagnons les personnes pendant leur séparation. Moi, j'accompagne des couples qui sont en train de se séparer pour que justement ça se passe au mieux pour chacun d'entre eux et pour les enfants. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a 11 ans, quand je me suis installée, les séparations n'étaient pas accompagnées. Et c'est une demande, alors c'est une proposition que, en tout cas personnellement, je fais, quand j'ai même rencontré le couple avant qu'ils prennent la décision. Mais c'est aussi une demande qui est maintenant faite par les couples eux-mêmes.
Sébastien Dex, en quelques mots, quel est le drame qui se joue au moment du divorce ? Ça vaut le coup peut-être de le redire. C'est le drame de l'amour, c'est une manière de résumer, mais on peut imaginer que... ce qu'on imagine qui dure toujours et tout le monde y aspire, tout d'un coup devient comme une impossibilité. Donc il y a...
Oui, la plupart du temps, ce drame peut être vécu comme un effondrement. Donc un effondrement, c'est pas rien. Si on prenait l'image d'une maison, c'est le mur porteur de la maison qui s'effondre. Voilà. Donc c'est quand même pas rien.
Pour les personnes,
personnes concernées, pour l'alentour, pour les amis, pour les enfants, les grands-parents. Tout le système familial au sens large, la famille élargie vraiment, est concernée par le divorce. C'est un peu un cataclysme, si on garde un petit peu ces termes qui sont pas trop forts. Et en plus, je dirais, c'est un drame, mais qui recouvre de micro sans valeur, de micro-drame. Parce qu'il y a le drame conjugal, il y a le drame des enfants, il y a le drame financier, il y a tout un tas de petits, entre guillemets, drames qui viennent nourrir ce drame du divorce.
Marie-Aude, vous vouliez reprendre la parole ?
Oui, en tout cas, ce qui me semble important de dire, c'est que, étant donné que c'est un traumatisme, comme vient de le dire Sébastien, ça demande aussi de prendre son temps et de ne pas se précipiter dans une décision de divorce et de rester, je dirais, au début assez discret par rapport à la situation que vit le couple. Parce que malheureusement, l'environnement peut favoriser le divorce ou envenimer le divorce. Et donc ça, c'est toujours très compliqué puisque ça touche pas que les conjoints, d'y aller très très doucement.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver. Marie-Aude, on cite le titre de votre ouvrage publié en 2017, Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise, paru aux éditions Odile Jacob. On vous retrouve d'ici 2-3 minutes.
Emmanuel Pella.
Vie de couple, vie de famille, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec un sujet difficile ce matin, la question du divorce, avec Marie-Aude Binet, conseillère conjugale et familiale et sexologue, et Sébastien Dex, sexologue, et Sébastien Dex, sociologue, lui, et psychopraticien. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur les différents âges du divorce. Voilà, il y a des périodes critiques. On en a déjà parlé à cette antenne, vous en avez certainement parlé dans vos chroniques, Marie-Aude, mais ça vaut le coup de le dire et de le redire, probablement aussi pour prévenir. Donc les trois périodes critiques, Marie-Aude, seraient donc 5 ans, 15, 20 ans et 30 ans. Je regarde les chiffres trouvés sur Internet, de fait, c'est là où on voit les pics. Expliquez-nous ce qui se joue et éventuellement, si vous avez des chiffres, donnez-les-nous.
Alors, durant les 5 premières années de vie commune, il y a un fort risque, surtout chez les très jeunes ménages, c'est-à-dire ceux qui se mettent ensemble entre 18 et 25 ans. Ce risque-là est accru parce que souvent, ce sont des couples qui n'ont pas pris le temps de vivre seuls et qui sont dans une espèce d'idéalisation, une joie d'être ensemble, etc.
Ou un amour fusionnel
aussi.
Un
amour très fusionnel. Ouais. Et quelquefois, c'est même la venue du premier enfant qui va faire exploser le couple. Parce qu'il n'y a pas une préparation, une prise de conscience suffisante de ce que demande la mise en commun des deux vies.
Puis on s'est pas mis en couple en fait pour avoir des enfants et fonder une famille.
Exactement. Donc ça c'est quand même un des premiers risques, un des premiers âges de la vie est un peu compliqué. C'est vrai qu'on le voit moins du coup ce risque chez les personnes qui se mettent en couple après 30 ans. Mmh. Voilà. Ensuite, il y a en effet entre 15 et 20 ans de vie commune. Et ça, c'est là où il y a le plus de divorces, hein, puisque c'est 50% des divorces à ce moment-là, parce que ça correspond un peu à la crise du milieu de vie. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Vous disiez les chiffres tout à l'heure, les hommes et les femmes divorcent autour de 40 ans. C'est là où on se remet en cause, c'est-à-dire que finalement, on a déjà tout fait. On a eu les enfants, on a eu la majorité de sa carrière professionnelle faite, on a construit la maison, tout est fait. Alors qu'est-ce qu'on devient ? Et du coup, c'est cette grande question existentielle qui se pose, avec même qu'est-ce que je fais encore avec lui ou avec elle. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, on peut très rapidement se sentir désorienté, perdu, et du coup décider, je dirais un peu de blackbouler beaucoup de choses dans sa vie, dont le couple. Et puis, c'est aussi le moment où il y a l'enjeu d'une séparation qui n'a pas été faite avec les parents ou la famille d'origine, un carcan familial, n'importe, qui va se jouer, c'est-à-dire qu'il y a nécessité de... quitter le conjoint.
Alors moi j'ai une grande question là-dessus.
Autre chose.
C'est pourquoi est-ce que ça ressurgit souvent à 40 ans ? C'est-à-dire qu'on a le temps d'y penser à ce moment-là ?
Alors parce qu'on a déjà fait, en fait on a réalisé ses objectifs de vie. Du coup il y a un espèce de vide qui se crée. Maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire.
Je parlais du rapport aux parents en fait. Hein.
Mmh. Oui mais c'est ça. Mmh. C'est parce qu'en fait on a suivi la lignée. Et donc au bout d'un moment, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon devoir. Et qu'est-ce que je deviens ? Et moi personnellement en tant qu'homme et en tant que femme, mon désir de vie, mes projets à moi. Comment je les mets en place ? Et c'est là que quelquefois, il y a tout d'un coup cette émergence. Mais en fait, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que je vis. Voilà, on croit, c'est une croissance adulte. On devient pleinement adulte.
Sébastien.
Oui, pour aller dans le sens de ce que dit Marie-Aude, on parle de double individuation. C'est-à-dire qu'il y a une première individuation au moment, j'allais dire, de la mise en couple, du premier enfant. C'est comment le nouveau couple et les nouveaux parents vont, on va dire, se singulariser par rapport à leur modèle parental. Comment je vais élever mon enfant, par exemple, sans suivre obligatoirement ce que vont dire les parents ou les beaux-parents.
Et on ne se pose pas la question avant 40 ans c'est...
Alors ça, si, parce que celle-là, elle est plus tôt. C'est au niveau de la naissance de l'enfant. Après, les 40 ans, il se trouve aussi que c'est la crise souvent d'adolescence des enfants. D'accord ? Ou le départ des enfants de la maison. Et donc là, il y a une deuxième individuation qui arrive, c'est celle de finalement, on a fait ce que dit Mario de notre vie, on a abouti à peu près à nos projets professionnels ou d'achat de maison ou quelque chose comme ça, mais maintenant, qu'est-ce que je deviens en tant que personne ? Et même vis-à-vis de mon conjoint ou de ma femme, voilà. Donc là, il y a deux mouvements dans la vie et ça correspond après aussi avec nos espérances de vie, avec notre âge. Au début du mariage, donc entre 20 et 25 ans, et après plutôt vers 40 ans, avec cette fameuse aussi
Même si on peut imaginer que cet âge du divorce va reculer, parce qu'on se marie aussi de plus en plus tard.
Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on est là sur la troisième période de crise, donc qui apparaît aujourd'hui après 60 ans, donc au bout de 30 ans de vie commune. Même dans la génération des personnes qui sont nées autour des années 50, donc qui ont même 40 ans de vie commune. Donc c'est-à-dire que l'arrivée à la retraite provoque une situation de déstabilisation très importante qui, la plupart du temps, du coup, n'est pas préparée. Et aujourd'hui, les femmes comme les hommes osent davantage divorcer à ces périodes-là, puisque l'espérance de vie est importante, il y a encore 30 ans à vivre. Et ces 30 ans-là, j'ai envie de les vivre correctement. Donc, si ça ne va pas avec mon conjoint, j'ose me séparer de lui.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, quand on se marie à 30 ans, on peut imaginer qu'on aura au moins 40 ans de vie commune.
Exactement.
Oui. Démographiquement.
40 ans, voire 50.
Tout à fait.
La démographie ne rend pas la vie facile du couple. C'est ça, on gère pas.
Ça peut être aussi une bonne nouvelle que de vivre 50 ans ensemble.
Oui, tout à fait.
Mais faut gérer la traversée au long cours.
C'est on n'est pas préparé à ça. C'est-à-dire que ça fait que depuis après la Seconde Guerre mondiale qu'un couple aujourd'hui peut espérer vivre plus de 20 ans ensemble. Avant, ça n'existait pratiquement pas. L'espérance de vie faisait que à 40 ans, on était mort. Donc c'était à peu près maximum 20-25 ans ensemble. Aujourd'hui, de dire au couple vous pouvez vivre entre 20 et 60 ans, voire 70 ans ensemble. C'est un sacré défi et on n'est pas préparé.
Sébastien, ça vous angoisse ? Non, pardon, vous n'êtes pas là pour répondre
à cette
question.
Non, je le vis plutôt pas mal. Moi, je viens de fêter mes 20 ans de mariage avec mon épouse. Je suis plutôt content.
Pardon, mais... c'était une question piège et hors sujet, donc je me coupe court à la réponse.
Il n'y a pas de piège.
Les causes les plus fréquentes du divorce en France. La principale, c'est l'infidélité, à l'origine d'un tiers des demandes de divorce. Après, j'ai noté donc 22% l'égoïsme du partenaire, 15% le mauvais caractère. Alors, les pourcentages sont peut-être à préciser, mais ça donne des ordres de grandeur. Les comportements abusifs, notamment la jalousie, 15%, désaccords concernant l'avenir, maison, enfants, famille, etc. La compatibilité après, le travail et l'argent aussi, 10%, et les beaux-parents, 10%. Marie-Aude, vous qui avez écrit ce livre, Infidélité et crise conjugale, que dire sur l'infidélité ?
L'infidélité, oui, est énormément en cause, en effet, dans les séparations. Et parfois, c'est pas l'infidélité récente, ça peut être une infidélité qui date d'il y a 10 ou 15 ans.
C'est-à-dire qui dure depuis 10 ou 15 ans ?
Non,
ou qui est révélée,
parce qu'il y a une deuxième infidélité. Ou alors parce qu'en fait, c'est une blessure qui n'a pas été accompagnée, qui n'a pas été guérie, et qui, à un moment donné, ressurgit comme un effet boomerang, en fait. Donc, l'infidélité peut gangréner un couple, en effet. La plupart du temps, quand le couple se sépare à la suite d'une infidélité, c'est parce que justement ça n'a pas été accompagné. Une infidélité accompagnée peut être dépassée. Après, il s'agit de voir si c'est une infidélité répétée, quelle est la source de cette infidélité, puisqu'il y a plusieurs causes possibles, et puis surtout la forme de l'infidélité. C'est pas pareil d'avoir juste une aventure d'un soir et une infidélité qui dure depuis 18 mois. Donc on est aussi sur des situations très particulières. Ça dépend aussi si c'est une infidélité du côté féminin ou du côté masculin, puisque ça ne se gère pas de la même manière non plus en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc il y a beaucoup de paramètres. En tout cas, aujourd'hui, c'est un des risques de durer en couple, c'est qu'on favorise...
C'est fréquent, les infidélités ?
Exactement.
Même pour ceux qui restent ensemble ?
Exactement, puisqu'il y a 55% d'hommes et 33% de femmes qui sont infidèles.
Au moins une fois pendant
leur
vie.
Pendant leur vie.
Pendant leur vie de couple.
Et je parle d'infidélité affective et sexuelle, je ne parle pas des autres formes d'infidélité.
Mais pardon, qu'est-ce que vous appelez les autres formes d'infidélité ?
Ça va être le fait, par exemple, de passer son temps sur un jeu vidéo, ça va être de regarder la pornographie, ça va être le fait de rester au travail très tardivement, de ne faire que s'occuper des enfants. Enfin, il y a énormément de façons de ne pas être avec son conjoint.
D'un côté comme de l'autre, on imagine.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur les grandes causes ou est-ce que ça appelle d'autres commentaires causes que j'ai citées, l'égoïsme du partenaire, les comportements abusifs, les beaux-parents, l'argent, le travail. Sébastien Dex, je sais pas, quand on a une vie de travail qui est de plus en plus compliquée, qu'on sait que le nombre de précaires en France ne font qu'augmenter, parfois on a l'impression que s'il y a des jeunes qui se mettent en couple... parce que faut bien être solidaire et se tenir chaud. Quand on a des grosses difficultés financières, on peut imaginer que ça fragilise grandement aussi la vie de couple et la vie de famille.
Tout à fait. Moi, quand je reprends ces différentes raison de divorce, je trouve quelque part qu'elle pourrait être un petit peu catégorisée, en fait, si on reprend un petit peu de recul. Il y a, j'allais dire, des facteurs, on va dire, individuels, qui sont de l'ordre d'un, entre guillemets, de blessures, de dysfonctionnements personnels. Et donc là, quelque part, la responsabilité appartient à chacun des deux partenaires, en tout cas celui qui est concerné, de faire quelque chose pour lui, pour prendre soin de lui.
Donc problème psychologique, addiction.
Par exemple, tout à fait, ou relation au travail, relation aux jeux vidéo, enfin voilà, quelque chose qui représente, on pourrait dire, un peu comme un dérèglement. Voilà. Ensuite, il y a l'aspect relationnel, la projection dans l'avenir. Je suis étonné, là, quelque part, que n'apparaît pas aussi les désaccords sur le parental. Ah, si ça apparaît, oui, je le voyais pas. Sur l'éducation, les objectifs. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel est notre projet de couple? Parce que la plupart du temps, les grandes crises qui viennent, là, les 5, 15 et 30 ans, c'est une crise souvent du projet. Quel est le sens? Quel est le projet qui peut être celui qu'on va faire ensemble? Et ça, si on le travaille, ça se travaille au quotidien aussi. Et après, il y a aussi, le stress, les difficultés liées à notre environnement, on va dire socio-économique aussi. On n'est pas que des êtres, d'amour, de pur esprit. On est pris dans des boulots,
Quand on divorce davantage dans les grandes agglomérations, particulièrement à Paris, ça dit quelque chose, évidemment.
Tout à fait. Le stress et la difficulté, la rudesse, je dirais, de notre vie quotidienne.
Mario de Binet.
Je pense qu'aussi, s'il y a autant de crises conjugales après 15 ans de vie commune, c'est parce qu'on arrive à des âges où on est en capacité de prendre conscience de ses propres blessures. Et quand même, l'une des principales blessures que nous portons tous, ce sont les blessures affectives. Et ce sont ces blessures affectives qui entravent le plus les relations conjugales et qui sont les plus difficiles à dépasser.
C'est-à-dire, vous pouvez être plus précise?
Ce sont des troubles de l'attachement, ce sont des blessures qui ont été vécues soit dans la relation avec les parents, avec les frères et sœurs, ou même avec d'autres adultes dans la vie, qui vont à un moment donné ressurgir dans la relation conjugale, parce que dans une relation conjugale, on est dans une espèce d'osmose psychologique, consciente et inconsciente, qui font que on projette sur l'autre, ou l'autre vient réveiller en nous des choses que nous ne possédons pas consciemment, mais qui sont là, et qui à un moment donné émergent. Et ça peut être très déstabilisant.
Vous pouvez donner un exemple?
Ça peut être, par exemple, je vais parler en tant que sexologue, une personne qui peut avoir, une femme qui a beaucoup de mal à se libérer, s'abandonner dans les relations sexuelles, qui peut passer 20 ans comme ça, et puis qui tout d'un coup s'aperçoit, en fait, réveille, qu'en fait elle a été abusée sexuellement quand elle avait 8 ans, et qui finit par comprendre ce qui fait que dans sa vie de couple, elle n'arrive pas à s'épanouir. Mmh. Voilà, et ça peut se réveiller qu'à 45 ans.
Mais est-ce que ça ne correspond pas aussi à une forme d'approfondissement de l'amour? C'est-à-dire qu'à un moment, chacun va plus profond en lui-même et il s'agit de s'aimer en passant au moins 2, au moins 3, au moins 4 et en vivant un peu moins
à la
surface des choses. Non,
oui, mais ça convoque l'autre à le faire aussi. Et c'est ça qui est difficile dans une relation de couple, parce que personnellement, comme disait Sébastien, on peut faire un travail sur soi, mais ça veut dire qu'on va évoluer, on va changer un peu, et ça demande à l'autre de suivre le mouvement. Et ça, c'est compliqué. Et c'est la liberté de chacun qui s'exerce à ce moment-là.
Alors, une question qui vient en tête quand même tout de suite à ce sujet, c'est qu'on se dit les générations d'avant. Alors, génération d'avant, c'est vrai que c'est vague quand on dit ça, hein, mais imaginons pour ma génération, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, bref, quand même la génération qui normalement a commencé à vivre des mariages d'amour de manière assez structurelle dans la société, ont resté, 40, 50 ans ensemble. Et il n'y avait pas ce moment peut-être où on allait plus profondément dans son histoire personnelle. Pourquoi? Parce que la société nous y convoquait moins.
Oui, c'est clair que le grand tournant par rapport à... Moi, je suis assez d'accord, je vais reprendre. Je suis assez d'accord avec l'hypothèse que la relation de couple est une relation privilégiée où l'amour permet d'aller faire face à des choses qu'aucune autre relation ne me permet d'aller voir. C'est un révélateur fantastique, je pense, parce qu'il y a justement... où il y a eu à un moment donné cet amour entre deux personnes. Après, la question, c'est est-ce que je vais garder quelque part la foi, la confiance dans cet amour pour non seulement le révéler, mon problème, mais pour aller le travailler et le dépasser. Moi, je prends souvent l'image du guet, c'est-à-dire que d'une rivière et d'un guet, c'est-à-dire que l'amour va permettre de faire la moitié du chemin, sauf si je m'arrête au milieu de la rivière, c'est là où je suis le plus vulnérable parce que le courant m'emporte. Après, il faut avoir la foi, le courage, l'espérance dans l'amour et la relation. Or, ce n'est pas le petit monde des bisounours, hein, bien sûr, hein, mais pour atteindre l'autre rive, parce que sinon, on peut même regretter d'avoir fait le premier pas. D'accord ? Et je pense que vraiment, ce qui a changé, c'est l'idée, la valeur maintenant qui est sociale, sociétale, c'est celle de l'épanouissement personnel. L'amour, le mariage d'amour, il trouve ses racines. Par exemple, dans l'amour courtois, par exemple, là, en Occitanie, on était très en avance sur ce genre de choses. L'amour, le mariage se fait de plus en plus sur un choix d'amour. Mais maintenant, il ne suffit pas. Il faut aussi que chacun des partenaires ait la sensation que cet amour partagé puisse participer à l'épanouissement personnel de chacun. Alors, on se met des exigences assez élevées. Mais bon, aussi, on peut aussi se donner les moyens pour atteindre ces exigences.
Alors, en tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il faut avoir foi aussi dans l'amour, et il faut avoir foi collectivement dans l'amour pour arriver à faire le trajet, la deuxième partie du guet.
Oui, je crois que c'est aussi important, ce que disait un petit peu Marie-Aude aussi, c'est que le couple ne s'isole pas. On dit souvent qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Moi, je pense qu'un couple isolé est un couple en danger aussi. Il a besoin, le couple, d'avoir des amis-couples aussi. Parce que l'expérience permet aussi de dire « Ah oui, là, ça secoue, d'accord, mais faites un effort, faites un travail, écoutez-vous, prenez l'air, venez chez nous à la rigueur. » Mais voilà, ne pas être seul, pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y ait du tiers, des espaces d'aération pour éviter que ça vienne tout le temps s'entrechoquer quoi, dans les membres du couple.
Alors j'aimerais qu'on parle rapidement de la médiation avant qu'on fasse une deuxième pause. Vous me disiez, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on s'était dit qu'on allait parler de ça, qu'en fait la proportion de couples en crise, donc même en instance de divorce, hein, c'est ça ?
Dans le divorce.
Dans le divorce, la proportion qui ont recours à la médiation est infinitésimale, ou presque, c'est 2%, c'est ça ?
Oui, 2%. Alors j'ai pas actualisé sur les 2-3 dernières années.
En général, juges et avocats n'ont pas tendance à orienter vers un médiateur ?
Très peu. En France, ce que je disais un petit peu hors antenne, c'est qu'on n'est pas dans une culture de la médiation. C'est-à-dire que...
Rappelez en deux mots ce qu'est la médiation.
Alors la médiation, c'est la médiation familiale, il faut préciser. La médiation familiale qui entre notamment de plein pied dans la loi en 2002, sur notamment la loi d'autorité parentale. Parce que la médiation familiale a pour but que malgré la rupture du lien conjugal... il y ait une continuité dans le lien parental pour que l'autorité parentale et donc l'éducation des enfants puissent se faire par les deux parents, même en cas de divorce. Donc l'intention, moi je trouve, est plus que louable, la pratique aussi. Mais voilà, pour l'instant, les Français, nous avons du mal à nous saisir de cet outil-là.
Sachant qu'il y a une autre médiation, c'est la médiation qui essaye de prévenir la crise, non ?
Alors là, on entre plus dans le travail thérapeutique, mais qui est très complémentaire. On ne devrait pas non plus, j'allais dire, se faire la guéguerre entre médiateur et psychothérapeute de couple, conseil conjugal. Le but, c'est d'accompagner le couple suivant ses différentes étapes.
Marie-Aude Binet, la question est peut-être, c'est peut-être difficile d'avoir la réponse, mais si c'est 2% en cas de divorce qui ont recours à un médiateur, si on imagine la proportion de couples qui vivent des crises importantes et qui ont recours à un conseiller conjugal, on a des ordres de grandeur ou c'est impossible à dire ?
Non, enfin en tout cas moi je n'ai pas de chiffres, je pense que c'est assez compliqué à savoir parce qu'on peut, nous en tant que thérapeute de couple, rencontrer des couples en crise mais on ne sait pas forcément l'issue après, hein, on n'est pas toujours au courant s'il y a une séparation ou pas. Donc après il faudrait qu'on se renseigne auprès de l'ANSEF, hein, qui regroupe tous les conseillers conjugaux pour voir s'ils ont des chiffres. En tout cas, c'est sûr que la médiation aujourd'hui en France intervient souvent une fois que la décision de divorce est faite et que du coup, il faut régler matériellement.
Donc elle est judiciaire. Ça.
Voilà. Elle n'est pas forcément judiciaire. Le couple peut décider d'y avoir recours. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir cette médiation, en tout cas ce travail entre les conjoints avant. Parce que même les avocats le préfèrent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable pour les avocats de recevoir des conjoints qui savent ce qu'ils veulent, qui sont déjà quand même en accord sur les conditions du divorce, mais pas que matériel, aussi psychologique. Et c'est, moi, je travaille en lien avec des avocats qui le reconnaissent, qui disent c'est beaucoup plus simple d'accompagner nos clients dans ces conditions-là. Ils sont beaucoup plus apaisés. C'est pas la guerre. Donc, c'est aussi plus confortable. Et ça aide quand même déjà à commencer le travail de deuil d'une relation. Et ça, c'est pas rien non plus. Dans un divorce, il y a un deuil à faire.
On fait une courte deuxième pause musicale pour ceux qui nous quittent. Et je rappelle le titre de votre livre publié en 2007 aux éditions Odile Jacob, Infidélité et crise conjugale, comprendre et subir, et sortir de la crise. Livre donc de Marie-Aude Binet.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vie de couple, vie de famille, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, donc émission qu'on essaye de faire de temps en temps, c'est-à-dire à peu près tous les deux mois, avec donc Marie-Aude Binet, conseillère conjugale et familiale et sexologue, et Sébastien Dex, sexologue décidément, et Sébastien Dex, sociologue, lui, et psychopraticien. Aujourd'hui, on parle donc du divorce. Dans cette dernière partie d'émission, on s'était dit qu'on allait parler un petit peu plus des enfants. Voilà, je me suis imprimé un article qui parle du livre de Françoise Dolto, Quand les parents se séparent. Je ne suis pas aussi spécialiste que vous de ces questions, mais je me suis dit que ça pouvait être faire une bonne référence. Elle parle de l'importance des mots prononcés par les parents, mais moi j'avais tout simplement une question qui me venait. N'est-il pas fondamental pour tout enfant, pour grandir correctement et avancer dans la vie, que le mot amour soit égal à toujours? Et comment, on a beau peut-être prendre toutes les précautions oratoires, tout expliquer, comment prévenir cette blessure terrible que l'enfant va vivre ou cette équation va voler en éclats?
Alors, il y a comme ça des conjoints, des hommes ou des femmes qui hésitent à se séparer parce qu'ils ont conscience que ça va blesser leur enfant. Et malheureusement, c'est inévitable. Parce qu'en effet, l'enfant est dans une projection d'amour toujours, de papa et maman toujours ensemble, même quand il a 30 ans et que ses parents divorcent. Il n'y a pas d'âge pour rester dans ce rêve-là. Et un enfant a toujours le rêve que ses parents se remettent ensemble, même s'il y a un remariage. Donc ça, en effet, et c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Par contre, on peut l'accepter et se dire que ce sera à accompagner. Et chaque enfant va réagir à ça d'une manière différente, avec des mécanismes de défense ou des acceptations qui vont dans le temps se mettre en place différemment. Dans une fratrie, les enfants ne réagissent pas tous de la même manière. Alors, c'est vrai que l'annonce est importante.
J'ai vu que Françoise Dolto disait une chose, importante. Il faut dire qu'on ne regrette pas la naissance de l'enfant à ce moment-là.
Exactement. En fait, je pense qu'il y a d'abord une chose, c'est de se dire que avant même d'annoncer une séparation, je pense que c'est important que les parents prennent conscience que leurs enfants savent que ça va pas. Il y a des parents qui disent « Non, mais on dit rien à nos enfants, ils voient rien. » Je leur dis « Si, ils sentent tout. Même si vous avez la sensation de ne rien montrer, ils savent que ça va mal. » Donc déjà, il faut poser des mots là-dessus. Parce que l'enfant peut très vite se dire « C'est à cause de moi que ça va pas. » En plus, il peut avoir des comportements difficiles pour attirer l'attention de ses parents, donc renforcer sa croyance qui le culpabilise. Donc lorsqu'un couple est en crise, c'est important qu'il pose des mots auprès de ses enfants. Alors, faut pas dire grand-chose, hein, mais faut dire bon, « en ce moment, ça va pas bien entre papa et moi, et donc voilà, mais vous inquiétez pas, on est aidés, on s'en occupe ». Et du coup, l'enfant, on le remet à distance de ça. Lorsqu'il y a une décision de séparation, il faut l'annoncer le plus vite possible aux enfants, parce que derrière, il va y avoir de grands changements, donc il faut lui laisser le temps aussi de pouvoir s'y préparer. Pareil, l'objectif n'est pas de tout expliquer à l'enfant, hein, c'est la vie adulte. Donc on va pas lui dire « ton père m'a trompé », donc voilà, non. C'est, voilà, nous avons décidé de nous séparer. Donc, et là, on peut utiliser une espèce de différenciation. C'est-à-dire, je sais pas, Michel et Aurélie se séparent parce qu'ils ne s'aiment plus, mais papa et maman restent toujours papa et maman. Parce que nous serons toujours vos parents et nous serons toujours là pour vous. Et du coup, on fait référence à ce lien d'amour qui s'est créé depuis leur conception et leur naissance. Et ça, l'enfant a besoin d'être rassuré là-dessus. Voilà. Mais l'homme et la femme ne s'aiment plus ou ne peuvent plus vivre ensemble. Voilà. Et de distinguer les deux, dès l'annonce, c'est important.
Sébastien Deck, Françoise Dolto, j'ai vu, disait aussi que les enfants ont besoin de fabuler quand une information est trop difficile à assumer. C'est-à-dire qu'il y a une part, en fait, de toute façon, chez l'enfant qui va construire forcément un récit pour essayer d'arriver à encaisser.
C'est ça, le pèlerin. Oui. Moi, je préfère effectivement la construction du récit plutôt que fabuler. Parce que fabuler, souvent, ça renvoie après à l'idée que l'enfant s'imagine des choses et on ne le prend pas trop au sérieux. Alors que le but est très important, c'est mettre du sens à ce qu'il est en train de vivre, se raconter des histoires et que je puisse m'inscrire dans une histoire familiale notamment, c'est donner du sens à mon existence, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici et vers où je me destine à aller. Et ce que dit Marie-Aude est très important, c'est que de toute manière, l'enfant va être impacté et certainement blessé par le divorce de ses parents, quelle que soit, j'allais dire, presque la manière dont les parents vont vivre leur divorce. Et je trouve peut-être intéressant de dire cinq grandes réactions pour les enfants. La première, c'est le sentiment d'abandon. Et ça rejoint tout à fait ce lien à l'amour, en fait. C'est est-ce que finalement mes parents ne vont pas m'abandonner? Est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer? Alors que finalement, leur amour entre eux a cessé alors qu'ils se l'étaient dit effectivement amour égale toujours. Donc ça déjà, le sentiment d'abandon, donc c'est à accompagner chez l'enfant. Le sentiment de culpabilité, notamment chez, j'allais dire, les 3-6 ans ou presque 3-9 ans, le monde tourne un petit peu autour de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la phase égocentrique. C'est-à-dire, je crois que je suis responsable de ce qui se passe dans le monde. Donc là, si mes parents se séparent, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ne suis pas? Est-ce que je suis trop quelque chose ou pas assez? Donc je culpabilise de ne pas avoir réussi à faire que mes parents restent ensemble. Ensuite, il y a ce que dit Marie-Aude aussi, l'espoir de réconciliation. Moi, je suis très étonné, des fois même en thérapie individuelle, des hommes ou des femmes de 40, 50 ans, quelque part, qui n'ont pas encore fait le deuil de la séparation de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils espèrent encore, d'une certaine manière, il y a une part d'eux, peut-être leur enfant intérieur, enfin je ne sais pas comment on peut le nommer, qui espère que les parents se remettent ensemble. Il y a aussi la parentification, ce que dit Marie-Aude aussi.
C'est-à-dire quoi, parentification?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, les parents vont tellement mal, et les enfants le perçoivent, que les enfants veulent devenir les parents de leurs parents. Et malheureusement, au nom un peu d'une égalité où l'enfant est une personne, il y a des parents qui acceptent. Et donc l'enfant de 8-9 ans devient par exemple le confident de la maman ou du papa qui raconte ses frasques, par exemple sexuelles ou relationnelles, ses dépressions, son envie de mourir. Non, l'enfant reste un enfant, c'est une personne, oui, en droit, en valeur, mais il n'a pas à devenir le parent de ses parents.
Cinquième situation.
La loyauté, le conflit de loyauté. C'est-à-dire que...
J'allais y venir, c'est évidemment la chose à ne pas faire, c'est de dire qui tu choisis. C'est...
Oui, mais même... et malheureusement, c'est très souvent le cas. C'est-à-dire qu'on instrumentalise l'enfant dans le conflit entre eux. Mais même lorsque les parents ne le veulent pas, ça se passe quand même. Parce que l'enfant est doué d'empathie, doué d'amour pour ses parents.
Donc il a forcément un conflit de loyauté.
Oui, parce qu'il repère le plus faible. Il repère celui qui semble souffrir le plus à ses yeux de la séparation. Et donc, il va se mettre de ce côté-là pour le soutenir.
Même si ce n'est pas celui avec qui il vit.
Par exemple, oui. Et donc, ça demande aussi des... Ça propose des choix, des fois, de résidence où on ne comprend pas pourquoi il va chez lui alors que ça se passe mal. Mais parce que, justement, il perçoit que ça va mal. Donc, c'est qu'il ne va pas bien. Donc, si maman l'abandonne, il faut que moi, j'aille le soutenir. Alors voilà tous les enjeux super importants des enfants. Quoi.
Ça peut se vivre, on peut le vivre évidemment différemment. Enfin, un enfant, différents enfants d'une même fratrie peuvent réagir chacun de manière très différente.
Oui, complètement. Parce que déjà, tous les enfants, bon, c'est pas les même si on est à les mêmes parents biologiques, affectivement et relationnellement, on n'entre pas pareil en relation avec tel ou tel parent, suivant l'âge du parent, et suivant l'âge aussi où le divorce va s'opérer dans la vie de l'enfant. Mmh. C'est pas pareil que les parents divorcent lorsque j'ai 6 mois, 3 ans, 9 ans, 15 ans ou 20 ans. C'est pas la même chose.
Mais à vous entendre quand même, le divorce, non seulement il faut arriver à gérer la situation donc matérielle, la crise de couple que l'on traverse et le deuil à faire, être accompagné, que les enfants soient accompagnés, c'est quand même un énorme investissement en temps, en énergie, en argent. Oui. Je sais pas, Mario.
Oui, c'est pour ça qu'on parle d'un traumatisme et que c'est des changements derrière. C'est accepter de se retrouver seul, c'est accepter de déménager, c'est accepter quelquefois de changer de travail, de changer de ville, de changer de vie, de changer aussi d'image dans la société, puisqu'on change de statut social et donc ça peut être très douloureux aussi. Et pour les personnes qui sont croyantes, ça a aussi un impact sur leur vie spirituelle, sur leur vie en église, ça a un impact sur les vies familiales, c'est-à-dire qu'il faut faire le deuil aussi d'un lien avec les beaux-frères et les belles-sœurs, les beaux-parents. Enfin, il y a énormément, et quelquefois il y a aussi une séparation amicale, il y a des amis qui se détournent. C'est aussi réapprendre une autre forme de vie sociale, puisque quelquefois il faut se tourner vers des nouvelles personnes. Donc c'est vraiment un changement énorme, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui hésitent à se séparer, parce qu'elles ne s'en sentent pas la force. Pas qu'une question de courage, c'est même une force physique et psychologique. Donc, et c'est vrai que les enfants ont à vivre ça aussi. Alors, je dirais que pour les enfants, et malheureusement, comme c'est devenu un peu plus une réalité sociale, contrairement à il y a 30 ans, ils ne sont plus seuls dans leur classe à être enfants de divorcés. Donc, entre eux, ils se soutiennent. C'est-à-dire que dans les cours de récréation, ils se disent « Ah, mais comment ça se passe pour toi ? Et comment tu fais ? Et ton sac, tu le transportes toutes les semaines ?» Voilà. Donc, ils s'entraident aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, puisqu'eux-mêmes, ils trouvent des ressources pour vivre ce passage au mieux, suivant l'âge qu'ils ont.
Eh ben merci beaucoup. Et donc on imagine que vous allez avoir du travail, que ça soit donc conseiller conjugal, familial, médiateur, voilà. Et il serait bon, on l'a entendu, donc d'enterrer l'âge de guerre aussi. Je sais pas si on fera une émission un jour là-dessus, mais face à la crise, il faut être soudé. En tout cas, c'est un principe. Marie-Aude Binet, votre livre Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise, paru aux éditions Odile Jacob en 2017. Un grand merci à vous. Et rendez-vous donc dans 2 mois, avant l'été. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.